Bonjour, nous sommes le lundi 2 juillet, vous écoutez Radio Campus Paris, il est 14h, c'est l'heure de la relève.
Voudrais être footballeur professionnel, styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Bah, je voudrais devenir peintrice, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
La relève, c'est encore au mois de juillet, c'est une semaine sur deux, 30 minutes, avec de nouveaux talents d'où qu'ils viennent. Aujourd'hui, notre invité produit des clichés et reste pourtant toujours singulier. Notre invité est, et oui, c'est facile, mais c'est la fin de l'année et on est fatigué. Notre invité est donc photographe. Bonjour Baptiste Rabichon. Alors vous êtes, comme j'ai dit très subtilement à l'instant, photographe. D'ailleurs, j'espère que ça ne vous vexe pas qu'on dise que vous êtes photographe. Certains disent que vous êtes plutôt plasticien, on parle d'installation. Vous vous définissez comment ?
Photographe, artiste, les deux me vont.
Et plasticien, non ?
Si, aussi, oui.
C'est quoi la différence ? Pour des auditeurs qui ne sauraient pas, le plasticien fait des choses plus... qui utilise la photographie pour faire autre chose ?
Non, mais on a l'habitude de nommer photographie plasticienne une photographie qui s'intéresse à la forme, tout simplement, plus qu'au sujet, peut-être.
Et alors, donc, vous vous intéressez plus au sujet ? Non, les deux, la forme.
Non, en fait, oui.
Alors, j'ai lu votre biographie, j'ai vu que vous étiez œnologue et vous aviez préparé un BTS d'œnologie.
Il y a bien longtemps.
C'est vrai. Oui. Alors, je voulais vous demander pourquoi le vin, c'était votre première vocation.
C'était pas une vocation, mais c'était, on va dire, quelque chose que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours d'ailleurs. Et j'avais eu envie d'apprendre tout ça.
Vous avez eu vraiment envie d'être œnologue ou c'était genre, comme on dit, passe ton bac d'abord, vos parents qui vous disaient, commence par avoir un vrai métier, puis après,
non,
fais tes
j'avais envie de faire quelque chose un peu concret. Et je ne savais pas dans quelle branche exactement du vin me diriger. Si j'avais continué, j'aurais sûrement bifurqué vers la sommellerie.
Et vous intéressiez déjà à la photographie ou c'est venu en cours ? En fait, c'était ça que j'essayais de savoir. Est-ce que vous intéressiez déjà à la photo ou pas à ce moment-là ?
Pas forcément. Progressivement, j'ai eu envie d'aller aux Beaux-Arts quand j'étais en à peu près à mi-parcours de mon BTS. Et à cette époque-là, j'écrivais beaucoup.
Parce que vous faisiez de la photo en même temps
Non, j'avais plutôt un travail d'écriture.
Ah oui, d'accord. Et moi, en lisant, je me suis dit qu'il y avait une chose, c'est que quand on vous servira de la piquette dans les vernissages, vous le saurez, vous. C'est l'énorme avantage que vous avez.
Oui, ça va dire ça.
Vous avez déjà bu de la piquette à des vernissages ?
Très souvent.
Et alors, vous faites des remarques, vous dites rien.
S'il y a de la bière, je prends de la bière.
Ah oui, à ce point-là ?
Je préfère en général, à part les bons vins, mais j'en bois beaucoup, beaucoup moins qu'avant, du vin.
Alors attention, gros jeu de mots. À quel moment vous avez eu le déclic pour la photo ?
Je sais pas. Je dirais que c'est venu progressivement. Ça s'est entremêlé avec mes travaux, on va dire, de jeune étudiant pendant mes deux premières années aux Beaux-Arts. Et durant la troisième, j'ai commencé à produire des images qui étaient de plus en plus photographiques, même si je n'utilisais pas d'appareil. Mais je travaillais beaucoup avec ordinateur, avec InDesign, Illustrator, Photoshop, ce genre de choses. Et progressivement, les images que je générais, qui pouvaient ressembler à du dessin ou à du graphisme, on commençait à prendre pour base de la photo, etc. Et on va dire c'est en troisième année vraiment de Beaux-Arts, donc il y a 6 ans.
Ah oui, alors vous n'étiez pas du tout le genre d'enfant qui avait un appareil photo, qui prenait tout le monde en photo, qui prenait les paysages, ça ne vous intéressait pas du tout ?
Non, pas du tout. J'en avais un d'appareil photo que j'ai eu un peu avant d'entrer aux Beaux-Arts. J'ai fait quelques projets photos.
C'est marrant, c'était pas du tout. En général, les gens, avant
les Beaux-Arts, ça a commencé à prendre une place. Mais si vous voulez. Évidemment, j'avais des projets photos un petit peu avant. Je suis même rentré aux Beaux-Arts en proposant un travail photographique, etc. Mais durant ces deux premières années, j'étais jeune, je connaissais pas grand-chose.
Vous êtes toujours jeune, rassurez-vous.
Oui, jeune dans la pratique. Et du coup, on touche à tout, on prend plein de voies, il y a tout un arbre de possibilités.
Ah oui, c'est plutôt ça, c'est que vous avez voulu exploiter d'autres voies pour trouver peut-être celle qui vous correspondait le plus.
Oui, mais je pense qu'à mon avis, une pratique artistique, c'est toujours, quand on y réfléchit, mais comme la vie en fait en général, il y a toujours quelque chose d'assez troublant quand on se dit qu'il suffit de peu pour qu'on ait fait autre chose. Moi, quand j'étais au Beaux-Arts, j'avais plein de pratiques différentes, plusieurs pistes de choses qui m'intéressaient vraiment et je pense qu'il y a aussi le hasard des rencontres, le hasard des discussions qui font qu'on va choisir une voie plutôt qu'une autre, mais un travail peut être totalement différent, je pense.
Là par exemple, c'est la rencontre d'un professeur qui a compté, c'est la rencontre peut-être d'un camarade
Bah, c'est tout ça. Enfin, il y a de tout. Je savais pas comment dire.
Je vais continuer de vous torturer avec une question qui est peut-être la plus bête que je puisse poser. Mais est-ce qu'il y a une photo qui vous a marqué, vous en tant que photographe? Est-ce que si je vous demande quelle photo vous a marqué, vous en avez une qui vous vient tout de suite en tête? Vous avez le droit de répondre aucune. Hein.
J'essaie de réfléchir s'il y en a une. Il y en a beaucoup.
Une de celles qui vous a marqué alors? Peut-être pas cela. Pour avoir une idée de quel est votre univers d'image?
C'est étonnant parce que j'en ai pas une qui me vient en tête.
Mais c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est une très bonne réponse à part. C'est une très bonne réponse aussi. Donc, vous avez étudié à Lyon et à Paris. Et je voulais vous demander, quand on fait ce que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce qui est important d'apprendre la technique? C'est d'apprendre à regarder? C'est d'apprendre aussi, peut-être aussi à avoir une culture pour savoir ce qui s'est déjà fait?
C'est tout ça. Je dirais, apprendre à regarder, c'est un cheminement permanent. C'est vrai que. Même si voilà, je sors d'une école de beaux-arts, du coup c'est une formation, etc. On peut critiquer tout ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même un temps de liberté là-dedans qui est extraordinaire, pendant 5 ans, où on peut se concentrer qu'à ça. Et c'est extraordinaire dans une vie, c'est extraordinaire. Et du coup, oui, moi je pense que c'est ça le plus important. Ensuite, après, la culture est aussi, je pense, très importante, parce que...
Pour pas avoir l'impression de réinventer l'eau froide.
Peut-être, parce que c'est vrai qu'avant les Beaux-Arts, j'avais... Ce qui m'a donné envie de rentrer aux Beaux-Arts, si vous voulez, pour l'anecdote, c'était plus des choses d'artistes conceptuels, ironiques ou pas, mais des choses comme ça, autour d'expositions. Et là, je ne dis pas que j'avais l'impression d'inventer l'eau froide, mais ça, certaines idées me faisaient jubiler, et en arrivant aux Beaux-Arts, vraiment, on se rend compte que c'est des choses qui ont été éculées depuis... 50 ans ou 60 ans et du coup ça aide simplement à aller plus loin.
Alors aujourd'hui votre travail il est notamment matérialisé par un livre qui s'appelle En Ville qui a été publié aux éditions Trocadéro si j'ai bonne mémoire,
oui,
parce
c'est
que c'est pas là où je l'ai noté, et je crois avec le soutien de la fondation BMW.
En fait c'est une résidence de création qui est financée par BMW qui avait lieu à Gobelins cette année, qui prend en charge en fait une petite bourse de vie et la production d'une exposition aux Rencontres d'Arles puis à Paris Photo et l'édition d'un livre qui retrace la production de cette résidence.
Et donc ce projet, ce travail en ville mélange plusieurs techniques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez? Parce qu'à la radio, parler de photos, c'est assez difficile.
Ouais, c'est très difficile.
C'était un peu mon défi de fin d'année, ouais. Faire une émission avec un photographe.
Pour résumer, brièvement, ce travail en ville en fait, contient deux séries d'images. La première qui sont des représentations de balcons parisiens, et la seconde qui sont des collages qui peuvent faire penser à des vues fantasmées de villes imaginaires ou rêvées. Et ces deux séries sont très différentes techniquement. Et la première, tout est un jeu entre le frottement entre des techniques traditionnelles et de l'imagerie numérique.
Et alors, pourquoi vous avez voulu faire ça? Pourquoi c'est peut-être... Qu'est-ce qui vous intéressait en tout cas peut-être?
Parce que je pense que les choses naissent dans la friction de contraire. C'est-à-dire que la vibration que j'espère réussir à transmettre dans ces images, elle vient évidemment de mes compositions, mon regard, ma sensibilité, etc. Mais techniquement, si vous voulez, les outils que j'utilise, je vais par exemple utiliser... des premiers gestes de la photo, par exemple, ce qu'on appelle le photogramme, l'empreinte directe sur papier, donc quelque chose qui a un lien direct avec la réalité. Et à côté de ça, un collage fait sur ordinateur à partir de scans à haute définition. Et c'est la rencontre de ces deux-là produit quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose qui naît, qui n'est pas contrôlable et qui produit ce que j'appelle cette vibration peut-être dans les images et qui fait leur force ou leur étrangeté.
Vous travaillez jusqu'à trouver cette vibration juste quand vous êtes devant votre ordinateur?
En fait, quand je suis devant mon ordinateur, je ne la vois pas. Si vous voulez, en fait, il y a vraiment deux grosses parties dans mon travail. Il y a cette première partie de composition où du coup j'ai un contrôle, un vrai contrôle.
Donc là, vous savez ce que vous voulez.
Là, je sais ce que je veux, mais si vous voulez, je sais ce que je veux sur la moitié de l'image. Et ensuite, après, je passe en chambre noire, où là, du coup, je travaille dans un...
Donc la chambre noire, vous développez, quoi, comme on sait.
Là, je fais mon tirage. Ouais. Et en fait, mais sur le papier, elle a déjà été poser cette première partie que j'avais fait sur ordinateur. Et là, même si j'ai une idée de ce que je veux faire, je suis dans le noir total, c'est plus du tout la même technique, et les deux vont se mélanger, et c'est là qu'il se passe quelque chose.
Et vous pourriez faire que du numérique qu'est-ce qui vous pousse à aller en chambre noire, à faire du tirage? Je sais que j'ai lu il y a quelques années, qu'il y avait aujourd'hui, paraît-il, beaucoup de jeunes photographes qui refont l'argentique. Oui. Moi, j'ai un ami qui fait des stages de photo argentique et qui sont pleins.
Mais je pense que déjà, il y a le fait que la photo argentique est une sorte de petite renaissance en ce moment. Je pense que c'est dû à plusieurs choses. Il y a déjà une nostalgie, je pense, de quelque chose qui est en train de mourir, et du coup les gens veulent en profiter encore.
Il y a aussi l'envie de savoir comment on faisait avant, de comment on obtenait la lumière.
Il y a ça dans une partie de la photographie peut-être amateur, je pense, mais après il y a autre chose, c'est que je pense que pour aller au fond d'un médium, il faut que le médium ait été lavé, délavé, etc. Et à un moment où la photographie est transformée par le numérique et Internet, la photographie argentique, en fait, devient inutile, entre guillemets, si on veut. Et c'est dans son utilité qu'on peut chercher à lui faire dire vraiment ce qu'elle a dans le ventre. Et pour moi, en fait, si vous voulez, la photographie argentique, elle est à peu près à la même place que la peinture à l'époque de l'invention de la photographie, si vous voulez. La photographie argentique, hein, je parle.
Ouais, la photographie argentique, donc, qui est la celle pré-numérique, et celle avec la Kodak.
Par exemple, ça, après, c'est quelque chose, oui, je pense que on peut fouiller, en tout cas, les travaux sur le médium, où on va fouiller les possibilités d'un média, nécessite avant que ce média ait été pas balayé, mais décalé, on va dire, dans son rôle.
Et vous pourriez tout faire au numérique? Vous faites des choses,
je fais des choses
100%
ouais.
numérique?
Oui, j'en fais.
Et là, ouais. C'est quoi quand vous, alors, après on va parler d'autre chose, mais ça m'intéresse. Quand vous revenez à ce support argentique, c'est parce que vous allez avoir un autre grain d'image, parce que vous voulez justement montrer que vous êtes allé jusqu'au bout de ce...
Non, c'est autre chose, en fait, si vous voulez. Moi, quand je travaille on dit argentique, en fait, je travaille directement avec le papier sensible, en fait. Donc, c'est-à-dire que mon outil, mon support, c'est la feuille de papier qui ensuite est exposée, qui ensuite est montrée.
Vous exposez pas sur des écrans encore?
Non.
Il y a toujours une étape où il faut...
c'est ma feuille de papier sensible, qui est le réceptacle de ce que je crée, de ce que je fais sur elle, si vous voulez. Et il y a toujours cette idée d'un tiers qui est à côté, en gros, qui est le papier, et qui à la fois montre ce que je fais, qui est à la fois ce que je fais, mais en même temps qui est l'image de ce que je fais. Et c'est ça qui m'intéresse. Il y a cette chose-là, cette espèce de chose entre deux, où, parce que si vous voulez, par exemple, je peux être dans le labo et me positionner moi-même sur le papier, poser des tissus à même le papier, envoyer de la lumière, et du coup, mon empreinte ainsi que le tissu va donner une image sur le papier. Et qu'est-ce que je fais? C'est quoi? C'est moi qui pose le tissu, ou alors c'est le papier que je vais montrer ensuite qui a vu tout ça? Et c'est ce jeu-là, si vous voulez. C'est cette notion d'enregistrement d'un phénomène qui m'intéresse. Et ça, c'est ce qui m'intéresse dans la photographie en général. Et
ouais. C'est-à-dire que vous n'enregistrez pas l'instant, mais vous enregistrez un processus quasiment.
Oui, j'enregistre un phénomène, mais il se passe quelque chose qui est toujours décalé par rapport à ce que je peux imaginer, et qui est en tout cas décalé en vision par rapport à la mienne. Ça, c'est ça qui m'intéresse. Et si vous voulez, dans l'argentique, il y a ce côté-là en contact direct avec le papier qui m'intéresse. Mais après, dans le numérique, c'est d'autres choses. D'accord. Mais il y a toujours cette idée d'enregistrement dans mes travaux.
Alors, sur le site du Frénois, qui est une école d'art, je pense.
Oui, qui est une école, centre d'art.
On trouve des reproductions de certains de vos travaux. Et pour parler de vous, j'ai cette phrase, pour ceux qui passent la philo au rattrapage, c'est peut-être encore temps d'y réfléchir, de Willem Flisser, qui dit « Être libre, c'est jouer contre les appareils, ça vous va ?»
Ça me va très bien. Parce que c'est une très belle formule. Parce qu'on peut l'entendre...
Ouais, les appareils, on peut penser que c'est politique aussi.
Oui, et on peut les entendre comme ça, mais on peut aussi...
Les appareils photo?
Non, les appareils, la machinerie, si vous voulez. Et c'est contre, c'est-à-dire contre en opposition, mais c'est aussi contre, tout contre, qu'on peut l'entendre.
Vous jouez aussi, donc j'ai vu une série où vous jouez avec des scanners d'aéroport.
Oui.
Qu'est-ce qui vous intéresse, là?
Mais c'est toujours cette idée que l'enregistrement de quelque chose par un autre outil que notre œil est tout autant réaliste que notre vision, mais qui est juste décalée.
Et là, par exemple, quand vous faites ça, vous pensez à toutes ces photos surréalistes? Moi, je pense à toutes ces photos. Il y a notamment des photos qui ont été faites au rayon X. Vous avez toutes ces photos-là en tête ou pas du tout?
Je les ai en tête. Non, pas forcément quand je crée ça. Là, si vous voulez, par exemple, ce que j'avais plutôt en tête, c'était... Enfin, j'avais pas ça en tête, j'en sais rien. Mais si vous voulez, il y avait un plaisir un peu à la Morandi quand je faisais les choses. Parce que... Pas parce que dans le résultat, même si beaucoup de gens m'ont dit que c'était une série qui faisait penser à Morandi, mais parce que la manière dont j'étais obligé de travailler avec ce scanner d'aéroport, où si vous voulez, il y a une sorte de boucle en fait. Les choses sortent d'un côté, il faut que je les ramène de l'autre côté ensuite. Et du coup, il y a une rapidité dans la composition. Ouais. Je ne suis pas chez moi, je suis dans un centre en train d'amener un peu de bordel, etc. Donc du coup, je n'ai pas non plus des centaines de milliers d'objets à passer dans la machine. Et du coup, j'ai une petite combinaison d'objets que j'arrête pas de recombiner ensemble pour faire autre chose à partir d'un bol, une bouteille.
Ah, mais là après vous les retravaillez parce que vous les coloriez.
Non, je les travaille pas. Non,
c'est la lumière, les couleurs qu'on voit, c'est celles qui ressortent.
C'est celles qui ressortent sur la machine.
J'invite tout le monde à regarder cette série parce que on a l'impression qu'elles ont été retravaillées.
Non, en fait c'est.
Ouais,
non. En fait c'est les couleurs, si vous voulez. L'image de base elle est en noir et blanc, mais l'ordinateur du contrôleur, lui crée des couleurs pour aider le contrôleur à repérer plus facilement les matières.
And now I'm free.
C'était Adam Nash, Cherry Lipstick, et qui, si je ne m'abuse, signifie rouge à lèvres à la cerise, et ça tombe bien, c'est un extrait d'un album qui s'appelle Love Album.
La Relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Nous sommes toujours avec Baptiste Rabichon. Baptiste Rabichon, vous êtes photographe, vous nous expliquez un petit peu, vous avez très bien expliqué comment vous travaillez pour créer des images, pour fabriquer, je ne sais pas si vous acceptez le mot fabriquer des images à partir de matériaux épars.
Oui, bien sûr.
D'une certaine façon, c'est aussi un retour au début de la photographie. Parce que, encore, je vais parler de mes souvenirs, mais j'ai souvenir d'une expo de Gustave Legret où j'avais découvert qu'il découpait les ciels pour mettre les bons ciels avec finalement du montage, on en fait depuis toujours.
Oui, oui, bien sûr.
Alors, vous, qui vous a inspiré
Alors, en fait, cette série, elle est la série. Donc, on a parlé un petit peu des balcons tout à l'heure. Et là, je pense que la série que vous évoquez, c'est la série qui s'appelle Album, qui ressemble effectivement à des collages, qui sont des collages que je fais dans la réalité, si vous voulez, enfin, dans le studio. Je crée des sortes de collages que je photographie ensuite. Et ce qui m'a inspiré pour cette série, en fait, si vous voulez, c'est. Il y a deux choses. Il y a. La première, c'est que cette première série de balcons qui était à la base le cœur de cette résidence et ce sur quoi je comptais vraiment travailler pendant ces quelques mois, j'avais photographié des centaines de balcons dans Paris et je me suis inspiré finalement que de 8 photographies pour faire ces 8 balcons qui sont présentés à Arles. Et en fait, j'avais envie de faire autre chose de toute cette masse. Et progressivement, du coup, j'ai construit, si vous voulez, en collage, des sortes de villes.
Imaginaire, ce que
oui,
vous dites.
Oui, voilà, rêver ou cauchemardesque, on les appelle comme on veut, si vous voulez. Mais, et dont tout le truc réside encore, là, pour le coup, dans une autre technique photographique qui est un entrecroisement entre le négatif et le positif dans ces images-là, par le biais de prise de vue avec telle sorte de film qui sont tirés sur le papier qui n'est pas du tout fait pour être tiré avec ce film-là. Et du coup, voilà.
Vous disiez tout à l'heure que vous aviez donc été pris en résidence par BMW, on les aura beaucoup cités. Est-ce que quand au moment où on est pris en résidence, on dépose un dossier avec un projet ou est-ce que le projet il est né pendant cette résidence?
En fait, j'ai déposé un dossier avec un projet mais qui n'est pas du tout celui que j'ai fait. Et le projet est né dans l'été qui précédait... J'ai appris que j'étais nommé, enfin que j'étais lauréat en juin et l'idée
et donc,
a germé en juillet. Quoi.
C'est assez souple, quoi. Vous avez pu changer de projet.
Oui,
vous
oui,
pas
ils ont
été gentils. Pourquoi vous avez dit non, c'est ça que tu dois faire. Et comment on passe de l'idée d'une image, d'une photo, de je sais pas dire comment dire autrement, d'une composition à l'idée d'une série? À quel moment on dit tiens ouais ça c'est un bon truc, je vais pouvoir faire une série. Les balcons à la limite ça on voit parce qu'il y en a beaucoup.
Oui mais en fait les balcons justement c'est né d'une ou deux pièces. En fait si vous voulez ce jeu entre le numérique et l'argentique c'est très présent dans beaucoup de mes travaux. Et ensuite ça donne souvent lieu à des images abstraites ou à des choses très, très différentes. Ou alors des choses plus oniriques hein, ou des choses plus symboliques si vous voulez et en fait j'avais une série de travaux, enfin c'était pas vraiment une série mais assez régulièrement je créais des images très très figuratives qui étaient faites à partir de photos, par exemple la vue d'une salle de bain, un portrait, la vue d'une cuisine, etc. Et donc du coup au milieu de tout ça un balcon, ouais, un deuxième et puis et en fait je me suis rendu compte que ces images là étaient peut-être plus fortes que les autres et parce que mon travail qui est en succession de couches, en succession de strates, etc., en fait, allait très bien avec le balcon qui est quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il y a cette frontière entre l'intérieur et l'extérieur, ce que les gens...
C'est de la nature dans un monde urbain.
Il y a ça, il y a aussi ce que décident de donner à voir les gens de leur intérieur, mais seulement ce qu'ils décident de donner à voir et ce qu'on devine derrière les fenêtres, mais qu'on ne voit pas ou très peu. Et voilà, il y avait cette chose-là qui me touchait et du coup j'ai commencé du coup à aller à la recherche pour les photographier et à créer cette série ensuite.
Alors vous allez être exposé à Arles, vous en avez déjà parlé plusieurs fois aux rencontres photographiques d'Arles, plus précisément au cloître Saint-Trophime, qui est un lieu magnifique. Est-ce que aussi on essaie de créer dans ces cas-là pour ce lieu-là? Est-ce que vous aviez en tête l'endroit où vous alliez être exposé?
Alors ça je ne savais pas du tout, parce que j'ai appris...
Peut-être, je crois que vous y êtes déjà allé, est-ce que vous pouvez essayer, vous savez mieux que moi, expliquer, montrer quel est ce lieu?
Ça, bah, c'est un cloître dans le centre d'Arles qui est absolument magnifique. Et...
Je ne sais pas trop de quelle époque il est, mais il doit être médiéval ou juste après, quoi, tout début du gothique.
Alors là,
on ne sait pas, tous les deux.
La honte ultime.
C'est pas grave. Non, en tout cas, c'est très beau, c'est un lieu magnifique.
Oui, c'est très très beau. Et je ne savais pas que j'allais exposer là-bas, si vous voulez, je l'ai appris, tout était déjà produit.
Et, là, vous y êtes retourné en vous disant, en essayant d'imaginer comment ça sera.
Je suis retourné, oui.
On enregistre avant le jour où ça commence, puisque ça commence le 2 juillet, on va tout dire. Donc normalement, là, aujourd'hui, vous êtes à Arles, à l'heure où l'émission est diffusée. Mais alors, avant l'émission, est-ce que vous êtes déjà allé voir?
Ah oui, bien sûr.
Vous
suivez
comment ça, les accrochages?
Ah non, bien sûr.
Comment vous allez mettre les photos? Dans quel ordre?
Ah oui, j'y suis passé, j'ai tout regardé. Ensuite, on a préparé une scénographie avec Emmanuel Vieillard qui s'occupe de ça, avec moi, et François Cheval, le directeur artistique de la résidence. Et oui, on a préparé tout ça bien en amont. Ouais.
C'est une reconnaissance, parce que vous êtes déjà jeune, d'être à Arles, aux côtés des plus grands, pour le coup, Arles.
Bah ça,
ça impressionne, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir.
Ça impressionne, on va voir. oui, sûrement. Oui. D'un coup, d'un seul, il y a une très grosse visibilité.
Puisque vous, jusqu'ici, vous y alliez en visiteur. Vous alliez voir le travail des autres.
Oui, toujours en visiteur, oui.
Et là, vous allez quand même aller visiter, voir les autres.
Ah, bien sûr, oui. Enfin, si j'ai le temps, parce que je crois que c'est très chargé, la semaine d'ouverture.
Vous savez ce que vous allez faire après?
Après, je pars en résidence en septembre, au sud de Lyon. C'est une résidence qui s'appelle Molly Sabata. Et je vais continuer à travailler.
Et toujours à explorer.
Oui, j'ai quelques projets en tête encore que j'ai pas mis en route. Du coup, ça va être l'occasion pendant cette résidence.
Et donc, une résidence, c'est toujours un endroit où on est aussi financé parce qu'il faut bien manger. C'est quoi le principe de la résidence?
Là, par exemple, celle de BMW, en fait, il y avait une bourse de vie et ensuite
Vous disiez une aide pour l'exposition et pour un livre.
Une aide à la production et c'était aussi un partenariat avec le Gobelin, l'école des Gobelins, où j'ai pu travailler là-bas pendant 3 mois, préparer l'exposition, préparer les images.
L'image 3D, ça vous tente? Vous êtes jeune, moi je me dis aujourd'hui les jeunes ils veulent tous faire de la 3D.
Oui, il y a des perspectives qui peuvent m'intéresser là-dedans. Ouais.
Et ça fait partie de ce que vous allez faire après?
Je sais pas, peut-être.
Vous savez pas encore. Alors, dans toutes vos bios, on parle de vous, on dit que vous êtes de Paris et de Tourcoing. Et je voulais savoir pourquoi Tourcoing. Bon.
Parce que le Frénois est à Tourcoing, j'y ai passé 2 ans.
Ah oui, donc vous avez aucun lien, parce que vous avez une petite pointe d'accent du Sud, si je ne m'abuse.
Oui, ma famille est de Nîmes.
Ah oui, donc vous n'êtes pas du tout de Tourcoing.
Non, j'y ai vécu 2 ans.
Mais... Et vous y allez plus là, c'est fini?
Si, j'y vais encore souvent.
Et le Frénois, c'est l'école d'art dont on parlait tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Oui.
Vous donnez des cours à côté?
Non, j'ai pas encore eu cette occasion.
C'est quelque chose que vous aimeriez faire?
Pourquoi pas, oui.
Quelle est la prochaine étape maintenant? À présent, après Arles?
Je vous disais, c'est cette résidence en septembre.
Ah oui, c'est cette résidence à Lyon.
Et ensuite, l'expo d'Arles part à Paris Photo pour Paris Photo, du coup, mi-novembre.
Et après, c'est l'international?
On va voir.
Quoi vous rêvez? En fait, c'est ça ma question.
De quoi je rêve? Je rêve de continuer à travailler et d'en vivre bien et correctement.
Aujourd'hui, vous en vivez?
Ça dépend des mois, mais en ce moment, oui, à peu près.
Et vous arrivez à vendre des...
C'est comme ça que je vis.
Ouais. Et donc, quand on... Je ne vais pas vous demander combien vous les vendez, mais quand on vend, c'est-à-dire vous êtes inscrit à la Maison des Artistes?
Oui, bien sûr, oui.
D'accord, merci beaucoup Baptiste Ravichon d'être venu. Je rappelle donc que votre exposition commence dès aujourd'hui à Arles. On pourra vous voir à Paris Photo, que c'est au Grand Palais. Et que vous avez édité, enfin que on a publié pour vous un livre qui s'appelle En ville, donc où il y a ces fameuses photos de balcon et puis les autres photos que les auditeurs pourront découvrir, dans un ouvrage qui est paru aux éditions Trocadéro avec le soutien de la fondation BMW. Merci beaucoup d'être venu.
Merci.
Cet après-midi. Vous venez d'écouter La Relève avec Baptiste Rabichon. On pourra donc aller, je le redis une dernière fois, voir votre travail en novembre à Paris Photo au Grand Palais. C'était donc La Relève saison 2. Cette semaine à la réalisation, il y avait Antonin, à la production, à la présentation, Christophe. Tout de suite, vous retrouvez le programme musical de Radio Campus Paris à 19h comme tous les jours. C'est la matinale où on se retrouve dans 15 jours normalement, peut-être pour le dernier numéro de La Relève de cette année. D'ici là, amusez-vous bien, à bientôt.